RFI 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Julien, bonjour à tous. À la une ce matin, le sommet de la francophonie, à l'heure du bilan, deux jours de sommet qui se sont achevés hier, avec une mise au point du président français Emmanuel Macron à propos de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Paris répète son appel au retrait du M23 et des troupes rwandaises et demande aussi de procéder au démantèlement des FDLR et de tous les groupes armés dans le pays. Dans ce journal également, vous entendrez le chef de l'agence sanitaire de l'Union africaine, Jean Kaseya, alors que la RDC a lancé hier officiellement sa campagne de vaccination contre le Mpox. La Tunisie qui vote ce dimanche, premier tour de l'élection présidentielle, avec un chef de l'État, Kais Saied, en quête d'un second mandat, et une commission électorale qui n'a pas prévu de date pour le second tour. Enfin, nous serons aussi au Tchad. Les opposants des transformateurs posent leurs conditions pour participer aux prochaines élections législatives. Et la première de ces conditions, c'est le report du scrutin à l'année prochaine. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, c'est la France qui organisait le sommet de la francophonie. Officiellement, sommet de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Deux jours de sommet, hier et avant-hier, à Paris et à Villers-Cotterêts, qui ont vu quelques avancées, mais qui ne se sont pas passées sans accrocs. Pierre Firsion.
Cette 19e édition a permis à l'OIF de s'agrandir. Deux nouveaux pays, dont l'Angola, ont intégré l'organisation comme observateur. Le Ghana a de son côté changé de statut, devenant membre à part entière, signe que la francophonie attire encore. Ce sommet n'a pourtant pas eu le succès escompté, seulement 19 chefs d'État étaient présents, dont 12 Africains. La crise dans l'est de la RDC a surtout fait apparaître de fortes tensions en interne. Félix Tshisekedi a boycotté le huis clos des chefs d'État samedi après-midi. En cause, le discours d'ouverture prononcé vendredi par Emmanuel Macron. Au moment où il évoquait les crises à travers le monde, le président français n'a pas mentionné le conflit dans l'est de la RDC. Un oubli que le président congolais n'a pas apprécié. Emmanuel Macron a tenté de déminer le sujet lors de la conférence de presse de clôture. Qu'il n'y ait pas de malentendu, a-t-il dit. Je n'ai été que parcellaire dans les citations. Il y a beaucoup de crises, de tensions, de guerres que je n'ai pas citées. Le président français a assuré qu'il n'y avait pas de double standard dans la diplomatie de la France. Nous appelons, a-t-il dit, au retrait du M23 et des troupes rwandaises. Nous appelons aussi à procéder au démantèlement des FDLR et de tous les groupes armés en RDC.
Pierre Firsion, la République démocratique du Congo qui a officiellement lancé hier sa campagne de vaccination contre le Mpox, cérémonie officielle et première piqûre symbolique à Goma avant le lancement effectif aujourd'hui à Luiro, c'est une localité au nord de Bukavu. Pour le moment, faute de suffisamment de doses de vaccins, la campagne est localisée et ciblée dans la province du Sud Kivu, priorité au personnel de santé ainsi qu'aux personnes les plus fragiles. Alors que la RDC est en ce moment l'épicentre de l'épidémie et que le Mpox y a tué plus de 900 personnes depuis le début de l'année. Ce matin, nous recevons sur RFI le directeur de l'Africa CDC, l'agence de santé de l'Union africaine, le Congolais Jean Kaseya, qui insiste notamment sur le fait que le vaccin est sûr et il encourage tous ceux qui sont concernés à se faire vacciner.
Ce vaccin a déjà été utilisé en Europe, aux États-Unis. La preuve est là, la population rwandaise s'est fait vacciner, elle n'est pas morte. Et au contraire, on voit une courbe descendante au Rwanda. Donc, nous appelons toute la population africaine concernée à se faire vacciner. Nous sommes là, notre mandat est de garder la santé des Africains et de notre continent. Et Africa CDC fera de son mieux en travaillant ensemble avec le gouvernement et avec les partenaires pour sauvegarder ça.
Et l'intégralité de cet entretien avec Jean Kaseya, le directeur de l'Agence sanitaire de l'Union africaine, est à retrouver sur RFI.fr. Je vous rappelle aussi que la RDC ne dispose pour le moment que d'un peu plus de 250 000 doses de vaccins contre le Mpox et Kinshasa en attend toujours plusieurs millions de la part, notamment de l'Union africaine, des États-Unis ou encore du Japon. La RDC ou par ailleurs, les autorités suspendent l'équipe dirigeante de Congo Airways, la compagnie compagnie aérienne nationale, nommément le directeur général et son adjointe. Ils sont tous les deux suspectés de mauvaise gestion et de non-respect des résolutions du conseil d'administration, alors que la compagnie fait face à de graves difficultés, et cela depuis maintenant plusieurs mois. Elle nous explique Passion Ligodi à Kinshasa.
Créé en 2014, Congo Airways est aujourd'hui au plus mal. De sa flotte initiale de 4 avions, il ne reste aujourd'hui que 2 appareils, tous 2 cloués au sol en raison des problèmes techniques. La compagnie a bénéficié d'un moratoire accordé par l'Association du transport aérien international IATA pour lui permettre de remettre l'un de ses avions en service. Malgré les annonces répétées de soutien du gouvernement pour tenter de sauver l'entreprise, aucune intervention concrète n'a abouti jusqu'à présent. La dernière initiative en date concerne l'adoption d'une proposition de renouvellement de la flotte de Congo Airways. Lors d'un conseil des ministres en juillet dernier, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre des Transports, a présenté un plan d'action pour relancer la compagnie. Un plan sur 5 ans qui prévoit l'acquisition en location-achat des 3 avions des types Airbus A320. Cependant, la société continue de faire face à des problèmes internes. Dans la décision des suspensions, le ministère du portefeuille estime qu'il existe des indices graves de mauvaise gestion. Les revendications répétées de la délégation syndicale et les résultats du dernier audit viennent renforcer ces accusations. En attendant une décision définitive du gouvernement, une équipe de gestion intérimaire a été mise en place, comprenant un chargé de mission et 2 adjoints pour assurer la direction générale. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
À Kinshasa, où il est maintenant 7h36, même heure, à N'Djamena, au Tchad, où les transformateurs posent leurs conditions à moins de 3 mois des élections législatives prévues le 29 décembre prochain, en même temps que des élections provinciales et communales. À N'Djamena, hier et avant-hier, le parti de l'opposant Succès Masra était donc réuni en congrès. Il demande un report de ces scrutins, disant vouloir participer, mais sous conditions. Correspondance de Carole Valade.
Les transformateurs iront aux élections, mais à condition qu'elles soient reportées à 2025 en raison des violentes inondations qui touchent actuellement le pays, qui ont fait près de 600 morts, affecté près de 2 millions de personnes, rendu totalement inaccessibles certaines parties du pays et qui devraient encore s'aggraver dans les prochains jours. Impossible dans ces conditions de battre campagne, selon le parti qui dit tirer les leçons de sa participation à l'élection présidentielle de mai dernier. Succès Masra est arrivé second selon les résultats officiels qu'il conteste toujours, en posant également comme condition la révision des listes, du découpage, du code et de la composition des institutions électorales. Succès Masra laisse néanmoins la porte ouverte à une forme de collaboration avec le pouvoir dans le cadre de ce qu'il nomme un consensus bipartisan, de quoi faire grincer des dents dans les rangs des autres partis. Carole Balade, N'Djamena, RFI.
Une élection qui a lieu aujourd'hui. Les bureaux de vote sont même censés ouvrir dans un peu moins d'une demi-heure maintenant. C'est en Tunisie, alors qu'une partie de l'opposition appelle au boycott et dénonce un scrutin verrouillé en faveur du pouvoir et du chef de l'État, Kais Saied. Aujourd'hui, les Tunisiens ont le choix entre 3 noms. Le tribunal administratif en avait retenu 3 autres, mais la commission électorale est passée outre sa décision. Ce dimanche, donc, ils ne sont que 2 face à Kais Saied. Aya Chizamel, actuellement en prison, et Zohir Marzaoui, portrait croisé de ces 3 candidats avec Ouda Ibrahim.
Aya Chizamel, 47 ans, cet homme d'affaires libéral et ancien député, dirige le petit parti Azimoun déterminé. Il est le seul opposant à Kais Saied, condamné à 12 ans de prison pour des accusations de faux parrainage non fondées selon ses avocats. Il est resté en lice pour la présidentielle. Il rêve de connaître le sort du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et est soutenu par une partie de l'opposition qui appelle à voter en masse pour lui. Quant à Zohair Marzaoui, 59 ans, ancien professeur de mathématiques et ancien député, il dirige le parti Achab, le mouvement du peuple, et incarne la gauche pan-arabe. Il a soutenu le coup de force de Kais Saied en 2021 pour s'approprier les pleins pouvoirs. Pour de nombreux Tunisiens, c'est un candidat fictif qui sert d'alibi démocratique au président. Face à eux se tient l'actuel président Kais Saied, 66 ans. Il gouverne par décret et concentre tous les pouvoirs depuis 3 ans. Il a étouffé toute voix critique à son égard. Après 5 années de mandat, bon nombre de Tunisiens ne sont plus sensibles à ses propos. Les 2 derniers scrutins locaux ont démontré l'ampleur des désaveux, mais il bénéficie toujours de la sympathie des plus défavorisés.
Bouda Ibrahim. Et dans le prochain journal sur RFI, nous serons en direct avec notre correspondante à Tunis, Samira Souilem, pour l'ouverture des bureaux de vote du premier tour de cette élection présidentielle. Dans l'actualité des pays africains ce matin également, le Burkina Faso et la prise de parole du président de la transition, Ibrahim Traoré. 2 ans après sa prise de pouvoir, il a répondu hier à des questions d'auditeurs sur la radio publique burkinabé et en parlant notamment de l'attaque de Borsalogo fin août dans le nord du pays, quand des djihadistes du JNIM ont tué plusieurs centaines de civils. Ibrahim Traoré promet que des résultats d'une enquête seront connus d'ici quelques jours. Enfin, un mot de sport. On parle du Cameroun ce matin, du rugby. Le Cameroun, relégué en rugby très loin dans les classements mondiaux et qui compte sur son nouveau sélectionneur pour trouver un nouvel élan. Olivier Missoup, passé en tant que joueur par le Stade français Paris ou par Toulon, il a déjà convaincu Maxime Mermoz, ancien international français, de venir travailler avec lui. Et il veut maintenant s'appuyer sur des joueurs locaux qui évoluent au Cameroun et sur des binationaux qui évoluent au club en France.
Je pense qu'un jour viendra où il y aura des batailles entre les sélections africaines et l'équipe de France pour aller récupérer un joueur. J'espère qu'un jour ça viendra, comme on peut le voir sur le foot. Parce qu'on a beaucoup de... Moi, j'ai halluciné un peu avec le nombre de joueurs qui avaient des origines camerounaises. Il est en pleine évolution, le rugby africain, mais on a besoin de toute la diaspora africaine, que ce soit algérienne, marocaine, tunisienne, camerounaise, sénégalaise, ivoirienne et autres qui jouent dans les plus grands championnats pour venir aider. Et je pense qu'il faut qu'on tende vers là. Voilà. Mais ça, c'est la responsabilité de tous ces joueurs-là, que moi j'appelle avec la sélection camerounaise et ceux qui sont appelés avec les autres sélections. Voilà, et de prendre leurs responsabilités et à tous ces joueurs d'avoir confiance en ce qu'ils sont et puis de se challenger pour construire quelque chose avec le Cameroun, bien sûr, mais aussi avec les autres nations. Voilà.
Olivier Missoup, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de rugby du Cameroun. Le Cameroun qui jouera le mois prochain contre le Maroc dans le cadre de la première phase de la Coupe d'Afrique de rugby à Yaoundé. Il est maintenant 7h42 et vous êtes avec Julien Coquelle-Rohem pour la suite d'RFI Matin.